De retour avec Mathias Rioux, donc qui a obtenu un doctorat à 84 ans. Et sa thèse est sur la Gaspésie dans tous ses états, grandeur et misère du développement régional au Québec. Alors, on va en parler avec lui. Bonjour, Monsieur Rioux.
Oui, bonjour.
Expliquez-moi pourquoi donc vous avez décidé de faire une étude sur la Gaspésie sous tous ses aspects.
Je suis d'abord très heureux de parler aux Gaspésiens.
Oui.
Grâce à vous, à mes compatriotes que je salue. L'idée est venue tout simplement, je vais vous dire les choses bien simplement, c'est que, d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours été préoccupé par le sort de ma région natale. J'ai toujours été préoccupé par l'état de son développement économique et social. Et surtout, c'est toute cette notion de retard. Tu sais, cette idée de retard qui fagote et qui stigmatise la Gaspésie par rapport aux autres régions. Une région pauvre, éloignée, une région froide, excentrée, etc., etc., que les investisseurs et les politiciens boudent parce que on a souvent l'impression que c'est une terre de Caïn où il n'y a rien à faire, alors que c'est tellement fou. Alors, je suis parti avec l'idée et je me suis dit, comment il se fait que la Gaspésie, aujourd'hui, est aussi mal en point qu'elle l'était lors de la crise de 1929 et les années qui ont suivi.
Comment vous en arrivez justement à dire ça?
Ben, je me suis dit, quelles ont été les actions qui ont été menées par l'État pour changer la situation? Si oui, quelles ont été les retombées concrètes de ces politiques sur la région? Et c'est là que m'est venue l'idée d'amorcer une recherche scientifique sur ma région natale et d'essayer de présenter la Gaspésie dans sa totalité. Présenter la Gaspésie dans sa totalité, ça veut dire son territoire, ses acteurs économiques et sociaux et sa population. Évidemment, ça m'a obligé à une remontée historique, vous l'aurez bien compris. Mais il fallait le faire, et il fallait le faire pour aller observer le fait social gaspésien avec des critères, des données objectivement observables. Alors, ça a été une démarche empirique.
Et parlez-moi un peu de ce que vous avez découvert, donc, dans votre recherche, là. Quel est le constat que vous avez fait?
J'ai fondé ma recherche à partir de deux grands concepts. Le développement, comme notion, comme concept, et la politique publique. Alors, le développement, il fallait bâtir un cadre théorique, évidemment, on n'ira pas dans ces détails-là. Ensuite, j'ai défini ce que c'était le développement, j'ai défini ce que c'est des politiques publiques, et ensuite, j'ai essayé, à travers l'action des gouvernements au cours des décennies, quelles ont été les politiques qui ont le plus marqué le développement régional au Québec et quels ont été les effets concrets sur notre région. Et j'ai découvert que parmi toutes les politiques qui ont été élaborées, très peu ont eu de résultats durables sur l'économie gaspésienne. C'est assez étrange, n'est-ce pas? Alors j'ai dit, mais pourquoi? Je prends un exemple concret. Lorsque le BAEQ a fait sa vaste enquête dans le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, ils sont allés auprès de la population, ils voulaient écouter les gens de la région, mais c'était des grands intellectuels qui venaient de Montréal, qui ne connaissaient pas trop la région gaspésienne, qui ne connaissaient pas le langage, la culture du milieu. Et plutôt que d'écouter vraiment ce que les pêcheurs, les agriculteurs, les gens des mines et les spécialistes en tourisme, ils leur ont vendu un modèle tout prêt qui était un modèle urbain. Le BAEQ a recommandé un modèle d'urbanisation d'une région rurale. Pensez-y deux minutes. Je vous donne un exemple. Une des recommandations majeures du BAEQ, ça a été de mettre la hache dans la pêche côtière. Tous les petits pêcheurs, comme mon père, qui gagnaient leur vie et qui réussissaient à faire vivre leur famille avec la pêche côtière, avec leur petite barque. Ça a été aboli par le BAEQ et on a instauré la pêche hauturière qui coûte beaucoup plus cher, qui demande l'achat de gros navires. Je voyais pas les petits pêcheurs de Rivière-à-Claude, de Mont-Saint-Pierre ou de Mont-Louis ou d'ailleurs acheter des bateaux qui coûtaient des sommes considérables. C'était hors de portée. Alors, c'était complètement déconnecté du réel. Alors, les Gaspésiens ont reçu le rapport du BAEQ comme une insulte.
Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, les gouvernements ne comprennent pas encore le développement rural, les régions?
Je vais être très honnête. J'ai été ministre responsable de la région. J'ai été député de Matane. Et quand je visitais les petits villages qui étaient en voie de dévitalisation, je me disais, bordel, comment il se fait qu'on n'a pas réussi à débloquer sur des politiques publiques qui permettrait à ces petits villages d'être sauvés. On avait convaincu Landry, et puis M. Parizeau était très, très, très conscient de ça. Moi, j'ai dit qu'il faut donner un grand coup de barre, et c'est là qu'est née la politique nationale sur la ruralité, pour venir en aide aux petits villages. Et grâce aussi à Nathalie Normandeau, qui a été magnifique hein, là-dedans, elle était très consciente de la problématique. C'était une ministre gaspésienne, et la politique a été prolongée. Mais je ne vous dirai pas ce qui est arrivé de la politique, avec en 2014, on l'a abolie. Alors, quand je regarde effectivement et concrètement, pour répondre à votre question, qu'est-ce qui a été fait? Bien, ce qui a été fait de bon est venu des Gaspésiens. Alors aujourd'hui, la réussite éolienne en Gaspésie est venue des Gaspésiens. Elle n'est pas venue du gouvernement du Québec. Elle n'est pas venue du gouvernement fédéral. Elle n'est pas venue de l'entreprise privée. Elle est venue des Gaspésiens qui ont dit oui, il y a du vent en Gaspésie. Elle a aussi bien profité.
Au niveau du développement de la filière éolienne, là, vous avez joué un rôle quand même important pour la MRC de Matane, là, parce qu'au début, Matane n'était pas incluse dans la filière.
Oui, j'avais demandé à Landry de prolonger jusqu'à dans la MRC de Matane les crédits d'impôt prévus, les crédits à l'investissement qui étaient prévus pour la Gaspésie. Et c'est de même qu'on a réussi à mettre en marche le technocentre éolien. Et qu'aujourd'hui, évidemment, c'est un succès, hein, l'éolien. Je suis tellement content. Mais ce que je veux dire, monsieur, c'est que c'est pas suffisant pour développer une région et faire en sorte qu'une région rurale développe un modèle de développement pour la ruralité. Pas pour l'urbanité, pour la ruralité.
Qu'est-ce qu'il faut faire, selon vous, la solution?
On a développé en Gaspésie une expertise qu'on n'avait pas il y a 20 ans. Et ce qui est merveilleux, c'est que ces gens-là ont la capacité de penser la région, et de la développer. Le problème, c'est que les gouvernements, et je le sais, j'ai fait partie des équipes gouvernementales, n'écoutent pas les gens du milieu, ne sont pas à l'écoute des besoins. Alors, les politiques qu'ils développent, c'est des politiques qui sont concoctées dans les officines du gouvernement à Québec. Puis là, on descend vers les régions, puis on leur dit, voici ce que le gouvernement a trouvé pour vous, les amis. Et généralement, ces politiques, ça ne colle pas. Moi, je le sais, des subventions qu'on a données à des entreprises qui sont mortes-nées, qui n'ont jamais décollé, de l'argent public qu'on versait presque à fond perdu, dans des projets qui ne tenaient pas la route. Moi, j'avais dit à Landry un jour, si tu mets des millions dans le parc de la Gaspésie, ça va donner des fruits. On a mis 150 millions. Ça, c'est solide.
Mais quand vous dites, donc, les politiques sont établies à Québec et puis on refait descendre ça, c'est pas le modèle exact. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? Donc, est-ce qu'il faut avoir un parti des régions pour passer notre message et que ça arrive à l'Assemblée nationale?
Moi, à mon avis, on arrive au cœur du débat. Souvenez-vous, lorsqu'on a créé des conseils régionaux de développement, Ce qui a été merveilleux avec les conseils régionaux de développement, les Gaspésiens ont appris à se parler. On a appris à discuter. Les gens d'affaires, les syndicats, les groupes communautaires, le monde de l'éducation se rassemblaient autour de la même table. Ils discutaient des problèmes, ils soumettaient des projets de développement, ils se concertaient entre eux, ils ont appris à se parler. Ce qui a manqué, c'est que les gens de la région de la Gaspésie, ce qu'ils ont toujours réclamé puis qu'ils n'ont jamais eu, c'était plus de pouvoir. Remarquez que si le gouvernement du Québec avait obéi à la pensée de René Lévesque, qui disait « créons des gouvernements régionaux, créons des gouvernements élus par les populations régionales, imputables, avec un pouvoir fiscal approprié », les gens des régions vont prendre leur avenir en main. On n'a jamais osé le faire. Alors, ce que je dis, moi, aujourd'hui, est-ce que ça prend un parti des régions? Je ne sais pas. Mais ça mérite, en tout cas, d'être étudié. Un parti politique qui dirait aux Gaspésiens ou aux Bas-Laurentiens ou à n'importe qui des régions ressources du Québec, on va doter leur région de gouvernements régionaux, les gens applaudiraient. Mais au contraire, on n'a jamais osé redonner le pouvoir aux régionaux.
Mais que pensez-vous de la décision du gouvernement, justement, de dire qu'il donne plus de pouvoir aux régions avec les MRC et les municipalités en créant, si on veut, une sorte de gouvernement de proximité?
Monsieur, quand on dit qu'on a fait des municipalités, des gouvernements de proximité, c'est une grosse blague. Les municipalités n'ont pas le pouvoir de faire du développement économique et social. Ça prendrait un gouvernement régional. D'autre part, le gouvernement parle des deux côtés de la bouche en même temps. En même temps qu'il dit aux élus municipaux, vous allez être les maîtres d'œuvre du développement. D'abord, les élus municipaux n'ont pas la compétence pour faire du développement régional. C'est du bon monde, ça, c'est des gens corrects. C'est pas ça. Je ne méprise pas ces gens-là. Mais les vrais développeurs, ce n'est pas les élus municipaux. C'est les gens d'affaires, c'est les syndicats, c'est les entreprises de capital de risque, comme Desjardins, le Fonds de solidarité, le Fonds d'action de la CSN, Investissement Québec, qui viendraient nous aider à financer les grands projets. En 2003, le gouvernement Charest décide de placer le développement régional sous la tutelle des élus municipaux. C'est un choix politique. Est-ce que c'était un choix judicieux? Sûrement pas. Le gouvernement Couillard a fait mieux que ça. Il a tout aboli. Les conseils régionaux de développement, il a aboli les conférences régionales des élus, aboli les CLD, aboli la solidarité rurale, amoché les carrefours jeunesse-emploi, si bien qu'aujourd'hui, c'est triste à dire, c'est pas de gaieté de cœur que je le dis, on est dans un cul-de-sac. Actuellement, le développement régional, dans notre région comme ailleurs, est dans un cul-de-sac. On n'a plus d'institutions capables d'orienter le développement. On a tout récupéré à Québec et on va nous parachuter des politiques par-dessus la tête. Et là, les Gaspésiens, comme les autres, comme les Bas-Laurentiens, comme les gens de l'Outaouais ou du Saguenay, vont dire « Mais qu'est-ce que c'est ça? » Alors, on a échappé le ballon et là, maintenant, le moment est venu peut-être de le récupérer et je dirais, aux Gaspésiens, profitez donc de la campagne électorale pour interroger vos candidats. Aujourd'hui, là, c'est le désert, hein? Il n'y a plus rien. On n'a plus d'infrastructure, on n'a plus d'organismes institutionnels qui nous permettraient de travailler efficacement et de concerter les acteurs. Moi, quand on me dit, je confie le développement de la Gaspésie aux élus municipaux, je veux bien, je respecte les élus municipaux, ils sont élus, mais ils n'ont ni le pouvoir fiscal, ni le pouvoir politique. Une MRC, là, c'est une organisation qui est juridiquement n'est pas un organisme élu. Les municipalités locales, les maires sont élus. Mais à la MRC, c'est un pouvoir délégué. Et le gouvernement a réussi à nous convaincre qu'il en a fait un gouvernement de proximité, c'est pas très, très sérieux. Dans les régions industrialisées, urbaines, etc., il y a des modèles de développement qui pourraient être institués. Mais pour la Gaspésie, il n'y en a pas de modèle. On n'en a pas. Donc, il faut en créer un. Alors, moi, ce que j'ai pensé faire sur le plan scientifique, c'est d'en proposer un pour la Gaspésie.
Votre proposition, vous, pour développer la Gaspésie?
Je pense que le moment est venu d'examiner très sérieusement l'industrie du capital de risque. Le Québec est doté d'une industrie du capital de risque remarquable. Vous avez les fonds de travailleurs, la caisse de dépôt, le grand mouvement des jardins, Investissement Québec. Ça, c'est du capital de risque institutionnel. Vous lirez dans ma thèse que je propose que Desjardins, cette grande institution qui gère un capital de 250 milliards, qui génère des bénéfices annuels de 1,5 milliard, je pense que Desjardins doit prendre une responsabilité en faveur d'une région comme la nôtre, de fédérer autour de lui, avec l'accord de l'État, un fonds de 500 millions qu'on pourrait mettre à la disposition des Gaspésiens. La Caisse de dépôt a investi dans la cimenterie de Port-Daniel 1,3 milliard. Gouvernement, Caisse de dépôt, etc. Là. Fonds de solidarité. Je me dis, ça c'est pour construire une usine polluante qui va créer 200 emplois. Est-ce que c'est ça l'avenir pour la Gaspésie? Non. Ça peut être créateur d'emplois pour la région, là, mais c'est pas ça le véritable développement. C'est de mettre à la disposition des Gaspésiens un réservoir financier qui leur permettrait, avec un levier fiscal venant de l'État, un capital sur 10 ans qui leur permettrait de dire oui, une entreprise en démarrage, une start-up, une entreprise qui voudrait se développer davantage, se moderniser, améliorer son efficacité technologique, pourrait avoir accès à du capital de proximité. Puis ça, un fonds comme celui-là, géré en partenariat avec la région et les grandes institutions qui mettraient de l'argent dans ce réservoir, on pourrait faire des miracles. Dans 10 ans, on ne reconnaîtrait plus la Gaspésie. Et ça, là, si on est capable de faire ça pour le REM à Montréal, si on est capable de faire ça pour Bombardier, pourquoi on ne le ferait pas pour une région comme la nôtre? Donner à la région gaspésienne la chance de remettre en marche son économie, de la moderniser en conformité avec son génie propre.
Et ça ne passe pas par des grosses entreprises, comme vous le dites, mais plus de l'aide à toutes ces petites entreprises qu'on retrouve qui pourraient s'améliorer, grandir et créer plus autant d'emplois, sinon plus qu'une seule auquel où on a versé, justement, comme la cimenterie, vous dites, là.
Votre remarque est très bonne. Souvenez-vous de l'époque du laisser-faire au Québec, avant la Révolution tranquille. Avant la Révolution tranquille, les gouvernements n'intervenaient pas dans l'économie. Ils laissaient l'entreprise privée venir en Gaspésie exploiter les richesses naturelles. C'est à l'époque du laisser-faire. Alors, on a dit, pour développer une région comme la Gaspésie, on va mettre des grosses usines, Gaspésia à Chandler, Donahue à Matane, Smith-McFault à New Richmond, Gaspé Copper Mine à Murdoch, bon, etc. Qu'est-ce qu'on a fait? Ces régions sont venus ramasser les ressources à bon marché. Ils les ont même pas transformées chez nous. Et quand il y a eu vidé la forêt, la mer et les mines, ils ont plié bagages puis ils nous ont laissé le chômage.
Bien, Mathias Rioux, merci beaucoup d'être intervenu sur nos ondes aujourd'hui pour nous parler un peu de votre doctorat, de votre thèse, la Gaspésie dans tous ses états, grandeur et misère du développement régional au Québec. Ça m'a fait plaisir de vous recevoir.
ça me fait grand plaisir de vous parler, monsieur. Et je salue les Gaspésiens.